vue d'ensemble de l'actualité.
Il y a une bonne équipe autour d'elle. Ça va être très important de la protéger. Sa vie va changer et tout ce qui est autour d'elle va changer. C'est une fille très humaine, très terre à terre, je l'ai dit quelques fois. Jusqu'à maintenant, déjà, je suis un peu surpris comment elle gère tout le truc, qu'elle est transportée, mais en même temps, elle est encore bien sur terre.
Trèville PM.
Alors, c'était Sylvain Bruneau, l'entraîneur de Bianca Andreescu, qui discutait avec Paul Arcand et Alain Crête ce matin. Et on part de ça, Katia Gagnon, pour parler un petit peu des parents.
Moi, Bernard, là, évidemment, ce match-là était incroyable. Là, c'était vraiment le fun à regarder.
Ouais.
Mais le moment qui m'a le plus ému, là, c'est à la fin, quand elle a pris son petit escabeau, là, puis elle a monté dans les gradins pour voir sa gang, ses entraîneurs, tout ça. Mais à la fin, il y avait papa et maman.
Ouais.
Hein?
Ouais.
Les parents de sportifs, là, écoute, tous les parents de sportifs ont compris là, quelle valeur ça avait, cette accolade-là. Là. C'est des années de travail, de stress, de soutien de leur enfant.
Des heures de route, des heures à se lever tôt, des chèques,
de
beaucoup
l'argent,
de chèques.
De l'argent. C'est un... Et tu sais, souvent, ce qui est plate, c'est qu'on entend souvent parler des parents de sportifs pour les mauvaises raisons.
Hein? Oui.
Ils crient après les arbitres, mettent de la pression sur leur enfant.
Ils veulent réaliser leurs rêves à travers leur enfant.
Exactement.
ce qui est vrai par moment, on s'entend.
Tout à fait, ça est vrai, puis il faut en parler.
Oui.
Mais on parle pas beaucoup du côté positif, là, c'est-à-dire que moi, je vis.
Toi, t'en as des enfants, des grands-enfants maintenant, athlètes d'élite, là.
Oui. J'ai un enfant qui fait de la natation, là, qui s'est rendu au championnat canadien. J'en ai un qui a fait de la course de fond, puis l'autre qui fait de l'haltérophilie. Donc, j'ai vu plusieurs sports, parce qu'il y en a qui ont fait plusieurs sports.
Oui.
Et puis, tu sais, j'ai vu des parents là-dedans, là. C'est extraordinaire, là. Tu sais, la natation, c'est un sport très exigeant. Hein. Il y a des entraînements de matin.
C'est ça.
C'est ce qui est le défi, la natation.
Ça.
Donc, à 6h15 dans le bord de la piscine.
Quand il fait moins 30, là.
Oui. Puis là, le parent, là, moi, j'habite à côté du Centre Claude-Robillard, là. Mon fils, il prenait ses souliers, puis il s'en allait au Centre Claude-Robillard tout seul à pied. Mais les parents qui habitent à l'autre bout de l'île, là, il n'y en a pas de métro à cette heure-là. Là, hein? Fait qu'eux, ils se lèvent, ses parents se lèvent à 4h30 pour aller conduire leur enfant 5 jours par semaine.
Hey, ça, c'est de l'amour.
C'est de l'amour. C'est vraiment
beaucoup d'amour.
Incroyable. Là, ces mêmes parents-là, ils sont sur le bord de la piscine les fins de semaine, les compétitions. À 7h le matin, avec un petit chronomètre dans les mains, là, ils chronomètrent là, les jeunes nageurs et tout ça, font leur bénévolat. T'sais, je parlais à des collègues là, qui ont des enfants qui jouent au hockey. Le hockey aussi, c'est quelque chose. Là,
C'est
5-6 fois par semaine. On part du centre-ville de Montréal, on s'en va à l'île Bizarre à 4h30. Vous imaginez-vous les contorsions que ça prend pour faire ça? Là, hein? OK, on s'en va à l'île Bizarre. Puis là, c'est la fin de semaine, il y a un tournoi à Trois-Rivières. Donc, leur vie est organisée autour de ça. Puis des fois, souvent, quand je parle de ça dans mon entourage, là, tout le monde me regarde en disant, mon Dieu, ils sont fous. Mais oui, un peu. Mais quand tu vois que ton enfant, c'est une passion, tu sais. Puis je suis sûre que les parents de Bianca Andreescu ont vécu ça à un moment donné.
D'ailleurs, elle leur a rendu hommage. Hein. C'était très beau quand
Absolument.
Elle a pris le microphone là, puis qu'elle a terminé son petit laïus en parlant en remerciant ses parents. C'était un moment absolument magnifique. Tu sais, parce qu'elle est. Elle a de la gratitude.
Oui.
Elle l'a exprimé, cette gratitude-là, cette reconnaissance-là pour tous les sacrifices qu'ils ont faits.
Oui, mais rappelle-toi aussi des sœurs du Four-la-Pointe aux Olympiques.
Ces
parents-là, le nombre de voyages qu'ils ont fait dans les montagnes, à Saint-Sauveur, tous les jours, pour que les filles aillent s'entraîner. Toute leur vie a été organisée autour de ce sport-là. Donc, tu sais, c'est vraiment quelque chose. T'sais, d'autant plus que cette petite fille-là, quand sa mère est devenue un personnage. Hein. Je ne sais pas si tu as vu ça sur les réseaux sociaux. Hein. C'est une madame qui est très, très belle, très bien mise et tout, avec des grandes lunettes fumées, avec son petit chien. Son petit mini caniche qui s'appelle Coco. Hein? Coco. Okay. D'après moi, il va avoir un compte Twitter bientôt, Coco. Là.
alors 790-9850, OK? Parce que je veux vous entendre. Sur le rôle des parents, peut-être que vous avez eu un peu, à l'instar de Katia, cette réaction-là, très positive, très, je dirais, même émue de voir à quel point elle était reconnaissante pour les autres, qu'elle n'avait pas la grosse tête, puis que et puis peut-être que vous avez vécu ça un peu à travers vos enfants aussi, les sacrifices, l'investissement. Alors, il y a un auditeur qui me dit, Bernard, tu t'es emporté un peu, tu l'as déclaré numéro un au monde. Non, en fin de semaine, elle était numéro un, mais dans les faits, elle est cinquième encore aujourd'hui, là. Mais bon, mais en fin de semaine, dans mon enthousiasme, je l'ai couronné numéro un de tennis woman au monde. Alors, 790-9850, 98985 par texto. Drainville à commercial, 985fm.ca. La vie d'un parent de sportif. Richard, bonjour.
Ah, salut.
Bonjour.
Ben moi j'ai eu deux filles qui ont fait du patin artistique de l'âge de 6 ans et demi jusqu'à 17 ans.
Mm-hmm.
Ça, c'était du patin artistique. C'est mon épouse qui s'occupait de ça. Puis les deux ont été au conservatoire aussi. Puis il y en a une qui a fait l'orchestre symphonique de la Montérégie avec chef d'orchestre Marc Chaput. Puis le conservatoire de Montréal, l'orchestre symphonique des jeunes de Montréal avec Louis Lavigueur. Puis elle a joué deux fois à Paris. Fait que c'est juste pour vous dire que ça coûte un bras. Puis que nous, les parents, ben, comme la dame me disait, le matin de bonheur pour aller aux Trois de l'Af, puis les compétitions, tout et tout. Puis on a consacré notre vie à ce que nos enfants deviennent de l'élite. Puis maintenant, il y a une de mes filles qui était musicienne, qui pratique son art dans un bloc opératoire d'un hôpital de Montréal. Fait que ça mène à ça. Ça mène à ça. Quand on se consacre à nos enfants, on les met sur nos épaules, puis on réussit à faire d'eux des grands professionnels, puis des gens qui ont réussi dans la vie.
Fait que ça a valu la peine, Richard? Aucun regret?
Ah, aucun regret. Même, c'est une grande fierté. Je dis à mon épouse, toi, tu t'occupes du patin artistique, occupe-toi des pieds. Moi, je vais m'occuper de la tête. Puis c'est moi qui les ai amenés au conservatoire. Puis de fil en aiguille, j'ai fait aussi le conservatoire privé. Puis on a joué tous les trois. Moi, ma fille et mon autre fille, dans un orchestre de 22 musiciens. Notre chef, c'était Henri Kijanski.
Eh ben.
On a joué dans différentes salles. Puis on a consacré notre vie à nos enfants. Puis notre réussite à nous, mon épouse et moi, c'est la réussite de nos enfants. C'est de les avoir amenés à un niveau de lumière, à un niveau de grande musique, de grande symphonie, puis les avoir promenés un petit peu partout sur la planète.
Ah, on sent la fierté dans votre propos et dans votre voix, mon cher Richard. Merci pour l'appel. Ça, c'est un beau témoignage, ça. Samia, bonjour.
Bonjour.
On vous
bonjour
écoute.
À vous.
Merci.
Moi, je suis une maman de trois belles filles. J'en ai une qui est handicapée mentalement. C'est elle qui est allée faire un tournoi olympique à Toronto. Et elle a remporté 3 médailles, 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent.
Mm.
Et je suis très fière pour un enfant handicapé, puis elle, faut pas la laisser toute seule, faut tout le temps qu'elle ait quelqu'un avec elle, qu'elle ait remporté 3 médailles. Là. Ça m'a fait chaud au cœur quand elle me dit, maman, elle dit, j'ai réussi. J'ai fait tabun. J'ai dit, pour un enfant qui est handicapé, qu'elle a un handicap mental, puis qu'elle fréquente pas une vraie école parce qu'elle peut pas apprendre, elle n'est pas capable.
Le dépassement, Samia, on peut-tu dire? Hein? C'est un bel exemple de dépassement de soi.
Oui, elle était très fière, puis elle était toute excitée de me dire ça. Puis j'ai fait bravo, maman est très fière de toi. Puis elle était stressée parce que les amis là-bas, ils m'ont ri de moi, ils m'ont fait rire de moi. Maman, je suis pas normale. Oui, oui, t'es normale, arrête. On le sait comment t'es, puis tu vas réussir, puis elle était stressée, puis elle n'endormait pas, puis quand elle est revenue de Toronto, elle était toute excitée, puis j'ai fait « wow », j'étais, en tout cas, dans le cœur d'une maman, là, c'est quelque chose.
Vous la féliciterez, Samia, de notre part, OK?
Oui.
Bravo.
Merci beaucoup.
Merci pour l'appel. Ouais, tu sentais la fierté de ses parents-là. Hein?
Moi, je les ai vus, les nageurs paralympiques, là, à l'œuvre, souvent en compétition, là. C'est vraiment un moment magique dans chaque compétition parce que ces jeunes-là, là, ils sont à divers degrés. Là. Il y en a que ça paraît pas du tout, mais il y en a qui ont vraiment des gros handicaps. Là. Et ils font, ils complètent leur longueur et généralement, à la fin, tout le monde applaudit. Parce que c'est tellement un exploit extraordinaire. Puis ça doit être une source de motivation et d'estime d'eux-mêmes incroyable, ces compétitions-là.
C'est sûr, absolument. Merci, Katia.
Bien, ça m'a fait plaisir.
On se reparle lundi?
Oui.
Lundi prochain? Absolument. On s'arrête. Au retour, je vais vous parler de ce film à propos du Mexique. C'est vraiment incroyable ce qui se passe au Mexique. À un moment donné, tu dis que ça va finir par s'améliorer, mais non, ça ne s'améliore pas du tout. Puis les narcotrafiquants ont comme gangréné cette société-là. Et là, c'est un niveau de violence. Moi, j'ai vécu là-bas, vous le savez. C'est un niveau de violence maintenant qui est comme qui n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens ce qui se passe au Mexique.